Il est 11h37 ici à Kinshasa. Nous allons commencer la session des questions et des réponses. Sur ma droite, Neftali, s'il te plaît.
Guy Oloum et RTL.
Non, Neftali. Bien essayé, voilà. Guy, bravo.
Neftali Bouamoutala pour la RTGA. J'ai deux petites questions à poser à mon général. Mon général, vous appuyez les opérations militaires à Beni. Vous parlez que de pertes en vues humaines du côté de FARDC et de la MONUSCO, des casquets bleus. Est-ce qu'on peut avoir les bilans du côté des ADF? Peut-être une sous-petite question. Vous avez dénommé l'opération à Beni ou Salama. En quoi consiste cette opération? Merci.
Merci, madame, pour votre première question. Je répondrai à la deuxième pour commencer. Oussalama est le nom générique de cette opération qui s'est déroulée et dont j'ai évoqué et pour laquelle vous avez posé la première question. Oussalama, c'est le nom de code de cette opération. Voilà, parce qu'on a l'habitude de baptiser une opération par un nom particulier pour faire, je dirais, la différence entre les différentes opérations qui sont conduites. Vous posez également une question tout à fait intéressante. Quel est le bilan des pertes du côté de notre ennemi ? Nous n'avons pas pu ramener les dépouilles d'un certain nombre de ADF qui ont été tués. Notre priorité ayant été de ramener les camarades blessés dans les lieux où ils auraient pu être soignés, les combats les plus durs étant intervenus en fin de journée, au moment où la nuit tombait. Mais nous savons aussi, et nous l'avons observé, que les ADF ramènent les dépouilles de leurs combattants qui sont morts. Ils ont l'habitude, et on le sait, d'évacuer les dépouilles de ceux qui sont tombés. Et donc, je n'ai pas le compte. En revanche, j'ai été moi-même rendre visite à nos soldats blessés qui sont actuellement à Goma et qui ont été blessés à l'occasion de cet échange de feu. Et je peux vous dire qu'ils ont tous témoigné qu'un nombre important d'ADF ont été mis hors de combat et hors d'état de nuire pendant cette opération. Et cela va au-delà de la dizaine, cela va à plusieurs dizaines. Mêmes éléments recueillis auprès de nos militaires camarades congolais. Et donc, je confirme que nous avons porté un coup sévère à cette organisation en allant les chercher dans un de leurs sanctuaires.
Nous poursuivons. Guy, maintenant.
Merci beaucoup, Florence. Guy Oloume, RTNC de développement, Général Cummings. Jour J-1 pour le début officiel de la campagne électorale en RDC. Pratiquement un mois d'euphorie et de distraction. Terrain propice pour des forces négatives de frapper à l'aveugle pendant ces moments de baisse de vigilance. À votre niveau, y a-t-il un plan sécuritaire spécial campagne électorale dans les zones à haut risque? Parce qu'à Beni, où frappe Ebola, les forces onusiennes seraient obligées de porter des tenues adaptées. Quel est votre avis? Merci beaucoup.
Merci. Donc, question qui recouvre plusieurs aspects. Vous parlez de porter des tenues spéciales? Non. Il n'y a aucune raison pour que les forces onusiennes portent des tenues spéciales dans cette zone où sévit le virus Ebola. Ceci est réservé aux acteurs de santé qui sont au contact direct de malades infectés. Ce n'est pas notre cas. Baisse de la vigilance. Vous faites une présupposition à laquelle je ne souscris pas. En aucune manière et en aucune circonstance, les forces, nos forces, quelles qu'elles soient, baisseront de vigilance. Nous continuerons à agir comme nous l'avons toujours fait. Nous continuons à avoir un niveau élevé de vigilance. Nous continuons à adapter quotidiennement le dispositif sécuritaire que nous avons déployé en appui des organisations de santé et également pour appuyer la protection des populations, je dirais, dans la grande zone de Beni. Alors, vous dites qu'ensuite, cette période électorale sera propice à un regain d'activité des groupes armés. Je vous laisse, je dirais, la primeur de cette information. Je dirais que de notre côté, nous continuerons à garder, comme je le disais, ce haut niveau de vigilance et à faire tout ce qu'il doit être fait pour que ceux qui luttent contre Ebola puissent le faire en toute sécurité et que les populations de Beni continuent d'être protégées avec le plus haut niveau de protection possible. Ce n'est pas là la seule responsabilité de la MONUSCO. C'est une responsabilité partagée avec les forces de sécurité de ce pays. Et dès lors que l'on parle de sécurisation d'un processus électoral, c'est d'abord la responsabilité des forces de sécurité de ce pays. Donc je n'ai pas à développer davantage ce sujet, qui n'est pas, je ne suis pas légitime à le faire. Je dis simplement que nous, la MONUSCO, nous continuerons à faire ce qui doit être fait dans le cadre de notre mandat, qui doit bien évidemment aussi aider et faciliter le déroulement paisible de ce processus électoral essentiel pour ce pays.
Oui, c'est exactement ce que je voulais ajouter, c'est que les opérations qui sont actuellement en cours à Beni, à la fois pour éradiquer l'épidémie Ebola et pour lutter contre l'insécurité et les groupes armés, ont également pour objectif de permettre aux habitants de Beni et de la région de pouvoir participer au processus électoral comme tous les autres citoyens congolais le 23 décembre prochain. J'allais dire on va à Goma, mais malheureusement nous ne pourrons pas les entendre, donc on reste ici avec, à Kinshasa avec Mimiche. Et apparemment Goma est revenu, mais on va faire Mimiche d'abord.
Merci, c'est Mimiche de TCCTV. Ma question est presque la même chose avec le confrère, mais moi je dirais que si il y a des dispositions particulières par rapport au candidat président, si la MONUSCO a prévu quelque chose. Et ma deuxième question chez Monsieur Aziz, pour est-ce que droit de l'homme prévoit quelque chose pour Peter Tiani qui est en prison? Cela fait au moins presque 2 semaines. Vous prévoyez quelque chose dans l'avenir? Merci.
Alors, le général Comines l'a déjà mentionné, la sécurisation des élections ne figure pas dans le mandat actuel de la MONUSCO. Toutefois, si les autorités congolaises expriment des besoins auxquels nous avons la capacité de répondre, nous les évaluerons et nous assisterons les autorités congolaises. Mais ce n'est pas le cœur de notre mandat, comme vous le savez.
Alors, concernant le journaliste qui est détenu en lien avec une procédure ouverte en son encontre pour des faits allégués de diffamation à l'encontre de la famille du Premier ministre, nous suivons en effet son dossier, effectivement, dans le cadre de notre programme de protection individuelle. Tout ce qui touche aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme, aux membres de la société civile, en général, ainsi qu'aux victimes et aux témoins dans le cadre des procédures judiciaires, tous ces aspects-là représentent un intérêt et nous faisons un suivi particulier. Dans le cadre des zones officielles, je ne pourrais pas vous dévoiler ici publiquement ce qui est en train d'être fait, mais effectivement, dans le cadre du plaidoyer, nous avons rencontré des autorités en ce sens-là. Mais nous continuons également à suivre de façon très très rapprochée son dossier. Merci.
Nous allons à Goma pour prendre une question, s'il vous plaît. Ça a failli marcher. Non, bon, alors on revient ici à Kinshasa. Oui, monsieur, sur la gauche.
Monsieur Rombo Kamanga de l'agence DIA. Mon général, je voulais savoir si dans les zones où la MONUSCO est engagée militairement, dans les opérations violentes, s'il y a la présence physique des bureaux de la CENI et de leur fonctionnement. Y a-t-il des bureaux de la CENI qui fonctionnent sous les balles? Deuxième question, pour les personnes décédées, est-ce que vous parvenez à faire la différence entre la dépouille mortelle du civil congolais tué et du rebelle tué? Ce sont tous deux des noirs. Troisième question, du côté du bureau de violence, vous avez parlé de violence sexuelle. Pouvons-nous avoir la part des violences sexuelles domestiques et des violences sexuelles de la part des agents de l'ordre? Merci.
Merci, monsieur, pour vos deux questions auxquelles je vais répondre successivement. La première étant, y a-t-il des bureaux de la CENI dans les zones où les forces de la MONUSCO sont déployées? Je dois avouer ma méconnaissance du déploiement exact des bureaux de la CENI, puisque je me concentre davantage sur là où nous sommes déployés, nous. Je pense que, logiquement, puisque nous sommes dans un processus électoral et qu'il y a toute une organisation administrative qui est déployée sur ce territoire, sur ce pays, il y a très certainement des bureaux de la CENI qui sont implantés dans les grandes villes, dans les grandes capitales provinciales et à d'autres endroits vraisemblablement, et où sont également présentes nos forces. Alors, si votre question secondaire était de dire « la force a-t-elle pour mission de protéger les bureaux de la CENI ?», nous n'avons pas ce mandat direct de protéger les bureaux de la CENI. C'est une responsabilité régalienne, nationale, congolaise. En revanche, la force, comme elle le fait partout où elle est déployée, assure une présence qui doit contribuer à renforcer la sécurité générale dans la région concernée. Voilà ce que je peux vous dire et vous répondre pour cette première question. Sur votre deuxième question, sur la discrimination entre les personnes tuées, puisque ce sont tous des gens originaires d'Afrique, de cette région, qui sont tués. Nos soldats qui ont été tués sont également noirs, comme vous l'avez dit, et la discrimination, elle est tristement simple à faire. Lorsque les dépouilles mortelles ont été ramenées dans nos hôpitaux ou même dans des hôpitaux militaires congolais, eh bien ce sont les autorités expertes, les médecins de la MONUSCO qui ont identifié les soldats qui étaient décédés. D'ailleurs, l'identification est souvent facilitée par les tenues qu'ils portent. Mais également, la même chose a été faite du côté des militaires congolais. Je n'étais pas présent, mais il n'y a aucun doute que les militaires congolais ont pu identifier quels étaient les camarades qui sont tombés de ceux qui n'étaient que des assassins et qui ont été peut-être rapatriés. Voilà ce que je peux vous dire.
Nous prenons une autre question. Excuse-moi, Aziz.
Pour vous dire en réalité que quand je fais des communications ici, je parle de violation des droits de l'homme. Je ne parle pas de violence domestique, je ne parle pas de la violence qui se passe au quotidien entre les citoyens. Ça relève dans tout autre niveau de prise en charge. Ce dont nous parlons ici, ce sont des violences sexuelles qui sont liées au conflit. Donc qui peuvent être attribuées à des membres des forces de défense et de sécurité ou à des membres des groupes armés. Donc juste pour clarifier. Merci.
Merci Aziz, avec mes excuses. Symphorien, qui lève la main depuis pas mal de temps.
Merci pour la parole. Symphorien Katumba, pour le compte de l'explorateur. Madame Florence, une préoccupation. Dossier Genève fait couler beaucoup d'encre en EBC, car l'opposition n'a pas fait route ensemble, et pour franchir le but désignant un seul candidat de l'opposition présidentielle. Madame Florence, est-ce que la MONUSCO a été associée pour apporter aussi sa contribution en tant que partenaire de l'ACDC? Je vous remercie.
On l'a répété à plusieurs reprises, le processus électoral appartient aux Congolais et il n'est pas dans notre mandat ni d'organiser les élections, ni d'organiser les partis politiques qui participent aux élections. Notre mandat est de s'assurer que les élections se tiendront dans les meilleures conditions possibles, que la campagne qui va commencer ce soir à minuit puisse permettre à tous les candidats de présenter leur programme, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc voilà ce que je pouvais vous répondre. On reprend une question, oui Benoît, sur la droite.
Merci Madame Marshall. Madame le porte-parole, à un mois du scrutin, les accords de la Saint-Sylvestre datent de décembre 2016, donc ils ont à peu près plus de 22 mois d'existence. Est-ce que, avec l'allure où vont les choses, la machine à voler ou à voter selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, avec toutes ces divergences entre les politiques, est-ce que la MONUSCO croit encore aux élections inclusive, apaisée et transparente? Parce que à un mois, j'avoue que moi je suis pessimiste.
Alors, comme vous le dites, nous sommes à un mois, donc attendons le 23 décembre et à ce moment-là, nous qualifierons la tenue, comment les élections se sont organisées. Mais jusqu'à présent, nous constatons que le calendrier annoncé par la CENI est respecté. La campagne commence ce soir et une fois encore, il est important que tous les candidats puissent avoir un accès équitable aux médias que vous représentez pendant la période qui s'annonce, pendant le mois qui s'annonce. Il est important qu'un débat démocratique puisse être établi dans le pays et que les citoyens congolais puissent, le 23 décembre, effectuer un choix éclairé des personnes qui les représenteront dans les prochaines années. Il est, comme vous le savez, c'est une opportunité historique pour la République démocratique du Congo, celle de réussir une première transition, une première passation de pouvoir de façon démocratique. Et c'est cela qui pourrait, parce que regardons au-delà des échéances électorales, regardons les perspectives de paix, de stabilisation et de développement qui s'offriraient alors à la RDC et qui sont celles que mérite le peuple congolais. Oui, ACP.
Merci, c'est venant vous dire ça, RTNC. Ma question s'adresse au commandant en force. Mon général, permettez que je vous pose cette question. C'est vrai, vous avez frappé le sanctuaire de l'ADEF dans la partie nord, dans le grand nord de notre pays. C'est un exploit, c'est bon. Mais est-ce qu'il vous arrive de remettre en cause votre système des renseignements? Parce que de temps à autre, vous êtes régulièrement surpris pour ça. Florence, c'est une petite question. Avec la nouvelle résolution, que devient la 2409? Merci. Est-ce que vous avez eu le temps, ou le Conseil de sécurité a eu le temps, de l'évaluer, ou on a procédé au vote d'une autre résolution sans que l'évaluation de l'autre ne soit effectuée? Merci.
Je vais tout de suite répondre pour lever tout malentendu. On est toujours sur la 2409 qui a été adoptée le 31 mars 2017 pour une période d'une année. Chaque mois, le secrétaire général fait un rapport au Conseil de sécurité comme cela a été demandé par la résolution. C'est la raison pour laquelle la représentante spéciale du secrétaire général était à New York la semaine dernière pour pouvoir faire une présentation de la situation actuelle en République démocratique du Congo, notamment l'évolution du processus électoral et la mise en œuvre de l'accord. Et à ce jour, le Conseil de sécurité, qui, comme vous le savez, est le seul à nous donner notre mandat, n'a pas exprimé le souhait de modifier le mandat. Donc nous sommes toujours sur la 2409 qui, normalement, a une validité d'un an et qui devrait être revue donc, dans le courant du mois de mars de l'année prochaine.
Merci. Je vais donc répondre à la question de notre journaliste de la RTNC. Agence de presse congolaise.
RTNC.
Voilà. Merci en tout cas de m'apporter cette précision et merci des termes que vous avez employés et qui nous rassurent sur la manière dont les choses ont été perçues puisque vous avez parlé d'un exploit. C'est vrai qu'à l'issue de toute opération militaire, nous avons l'obligation de rechercher les enseignements qui peuvent être tirés pour améliorer notre mode de fonctionnement, ce qu'on appelle les modes d'action, de manière à être plus efficace dans l'avenir. Alors votre question porte sur le système de renseignement. En l'occurrence, un système de renseignement, c'est pas juste on essaye d'avoir des informations en discutant avec la population et tout. Le système de renseignement qui a permis d'aller frapper cette base, c'est le résultat de plusieurs semaines de travail, de collecte d'informations, de recoupement d'informations, dont je ne dévoilerai pas la nature et l'origine, qui nous ont permis d'avoir la certitude qu'à cet endroit, il y avait un foyer qu'il était nécessaire de neutraliser. Faut-il changer notre système, le remettre en cause ? L'analyse après action que nous conduisons actuellement permettra de dire si ce système est suffisamment performant ou s'il y a des choses qui peuvent être encore améliorées. Il y a toujours des voies de progrès et nous, les militaires, nous cherchons toujours à tirer le plus grand parti possible des outils qui nous sont mis à notre disposition. Nous avons un certain nombre d'outils que nous avons déjà améliorés hein, depuis quelques mois maintenant et qui ont permis d'ailleurs d'être très efficaces sur cette opération. Mais je voudrais insister sur un point, vous m'avez sans doute à de nombreuses reprises entendu le dire, mais je dois le répéter. Il est indispensable que les ADF, qui ont très certainement des contacts et des soutiens dans cette zone, car je ne peux imaginer qu'on puisse survivre dans une forêt telle que celle-là sans avoir de contact avec l'extérieur. Il est indispensable que les populations qui seraient tentées de les soutenir cessent de le faire. C'est pour leur bien, c'est pour l'avenir de leurs enfants, c'est pour leur permettre demain d'avoir un avenir meilleur que je le demande. La deuxième chose, c'est que il est nécessaire que le réseau d'alerte communautaire et les réseaux d'alerte communautaire qui ont été mis en place et que nous ne cessons de faire évoluer, que ces réseaux d'alerte communautaire nous permettent d'avoir l'information le plus tôt possible. Je ne peux donner le nombre de fois où nous avons eu des informations qui nous ont permis de faire sortir très rapidement un détachement pour aller à un endroit où nous pensions qu'il allait y avoir un acte de violence. La violence n'a pas eu lieu. Nos hommes étaient dehors. Je considère que c'est un succès, puisque l'information que nous a permis de nous mettre en place et peut-être d'empêcher à l'ennemi d'agir. Il y a de nombreuses fois aussi où nous avons eu l'information lorsque la violence commençait à se développer et où nous avons très rapidement mis en place des forces pour faire cesser la violence. C'est ce qui est arrivé à Boïkéné, c'est ce qui est arrivé à Oïcha, c'est ce qui est arrivé à bien des endroits dans cette zone. Je demande et je souhaite que les réseaux d'alerte communautaire continuent d'aider à apporter une réaction rapide et dans toute la mesure à anticiper le développement de la violence.
Merci Général, merci Aziz d'avoir participé à cette conférence de presse. Belle journée à tous, à très bientôt.